On va parler ce soir d'un sujet très important. Il s'appelle Paresse ou Messirut Nefesh, la clé de l'éternité. Ce shiur, il est issu de notre livre qu'on a écrit avec l'aide du ciel. Il s'appelle Quelques gouttes de lumière pour l'éternité, que vous avez dû, Baruch Hashem, un peu consulter à la yeshiva. Si jamais vous ne l'avez pas vu, alors vous allez le voir, Bedrat Hashem. Mouraï Berabotaï, mes chers frères, on n'est qu'une poignée d'hommes dans cette génération qui servons le Melech Malchim Lachim, le patron de l'univers, Akadash Baruch Hu. Combien Akadash Baruch Hu, il a du nachat de cette Messirut Nefesh, de cette lutte, de cette avoda qu'on fait. Combien elle est importante, combien chacun d'entre nous, on doit se dire avant, quand on se réveille le matin, Bishvili Nivra Olam, le monde entier a été créé pour moi, c'est mes chayev. Ça doit me donner des responsabilités de me réveiller, de me battre comme un lion, parce que je sais que j'ai eu le sroud d'être éclairé, d'avoir eu le sroud de venir m'asseoir dans une yeshiva. Rabotai, on est les bnei melachim, les enfants d'Hachem, les enfants du roi. On est les plus précieux du monde, on est les plus grands milliardaires du monde, Rabotai. Moi je vous dis, je suis passé par tous les chemins. J'ai vu des gens de Wall Street, des gens de toutes sortes et tout ça. Je voyage beaucoup, je vais dans plein d'endroits, parfois à Londres, à Paris, parfois ils m'appellent par là à New York et tout. Je vois toutes sortes de gens. Je vous assure qu'il n'y a pas des gens comme nous, Rabotai, qui avons le sroud d'étudier la Torah Kdosha. On a les plus grands lingots d'or, les plus grandes pierres précieuses, les plus grands diamants. On est les dépositaires de la plus grande richesse du monde. Alors il ne faut pas qu'on soit mébazbez aucune seconde. Et il faut qu'on prenne au sérieux notre responsabilité, notre rôle. C'est nous les gardes-frontières, Rabotai. C'est nous qui tenons le monde. C'est nous qui protégeons le peuple d'Israël à travers le monde entier. C'est sur nous que le monde entier repose, sur le souffle des enfants qui étudient la Torah Kdosha, sur cette Messirut Nefesh, sur cette fila, sur ces efforts qu'on fait. Et Bedrat Hashem, on va ce soir livrer une des clés fondamentales de l'Avodat Hashem. La première des choses nous a rapporté notre maître le Rav Moshe Kaplan, qui était un des grands tzadikim, des grands balais moussards de la génération. Il était très proche de tous les Gdolim, de Rav Eliyahu Lopian, du Stapler, de Rav Shach, de beaucoup de grandes sommités du Moussar et du Olam HaTorah. Il disait, il rapportait au nom du Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Lutzato, dans Messiat Yesharim, que si quelqu'un n'est pas maître de son temps, si jamais quelqu'un il est paresseux, il est pris par la Hatzlut, et que cette paresse, elle envahit cette personne, à partir du moment où on n'est pas maître de son temps, on ne peut pas avancer dans la Avodat Hashem. Quelqu'un qui veut avancer dans la Avodat Hashem, il doit se débarrasser de cet ennemi numéro 1 qui est la paresse. Ce mzrob du Etzera qui vient et qui te dit t'es pas capable, t'as pas de force, tu peux rien faire, qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas faire, t'es petit et tout ça, regarde où t'étais, tu tournais là-bas à Belleville, tu faisais Wallahu Akbar avec les amis et tout ça. Et maintenant, du jour au lendemain, tu viens arriver ici, tu viens te renforcer à l'échelle, mais qui tu es, Habibi, qui tu es petit, qu'est-ce que tu es toi? Il te déconsidère, il te fait descendre et il dégrade ton image devant toi. Et donc toi, tu te charges de ce mourir éthère, de cette circonstance atténuante, tu te dis, finalement, Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas tellement de moi. Je ne suis pas né à Vologine et tout ça. Je ne suis pas né à Bnei Brak ou à Meacharim. Je suis né là-bas, là où je suis né, ce n'était pas facile et tout. Rabotai, ce n'est qu'une illusion. Le Yetzera, il veut nous faire passer des vessies pour des lanternes. Il ne faut pas l'écouter. C'est le plus grand chakran du monde. Comme on sait, il s'appelle sa mère même, Samoui Minaïn, il se cache. Il est toujours en train de se cacher pour ne pas qu'on le découvre. Si quelqu'un il est capable de le rechercher de tout son cœur et de sortir en lui en guerre, comme c'est marqué, le Or HaChaim HaKadosh, il explique dans Parasha Kitetse la milchama lo yivecha untano Hashem Elokecha b'shavit hashivyo. Si jamais tu sors en guerre, Habibi, c'est vrai, le Yitzhara, c'est du feu. Et toi, tu es de la paille, tu es rien, tu es de la poussière. Comment toi, tu peux lutter contre cet ennemi redoutable? La Torah elle nous dit Kitetse la milchama. HaKadosh Baruch Hu, si tu sors en guerre, il te placera cet ennemi dans la main. À partir du moment où quelqu'un il veut se prendre en main, il veut devenir Gadol Batora, il veut grandir, il veut s'approcher d'Akadash Borou, il veut sortir de cette léthargie, de ce sommeil. On est comme des ours polaires là-bas, on se met là-bas en train d'hiberner, on n'a pas de force. On voit le matin quand on a envie de se réveiller, tout ça, on a l'impression qu'on a des centaines de kilos sur nous et tout ça. C'est quoi? C'est l'ours. Et bien quelqu'un qui est capable de savoir qu'il a de la force pour sortir en guerre, ne serait-ce que pour sortir de son lit, se battre un petit peu. Rabotai, Akadash Borou, il donne des forces surnaturelles pour réussir à lutter. On va dans la parashat Hashavua, parashat Teruma et parashat Vayakel, c'est un petit peu sur ça qu'on a basé le shiur. Dans la parashat, on voit que Akadosh Baruch Hu a fait appel à la générosité de tous les Bnei Israël. Il leur a dit, venez amener la Teruma, chacun devra apporter de lui-même, chacun devra apporter de ses propres moyens financiers pour pouvoir faire la maison d'Akadosh Baruch Hu, le Mishkan, le tabernacle portatif qui a accompagné les Bnei Israël pendant 40 ans dans le désert. Il leur a dit, il faut que vous ameniez de vous-même. Kadosh Baruch Hu, c'est le Melech Malchim Lachim. Il dit le prophète que c'est Akadosh Baruch Hu, il a tout l'or du monde. Qu'est-ce que toi tu vas apporter à Akadosh Baruch Hu? Hachem, il voulait que chacun puisse contribuer à ce Mishkan, on va voir dans quelques instants. Chacun, il a apporté ce qu'il avait apporté. Il y en a qui ont apporté de l'or, de l'argent, du bronze, de Techelet, d'argaman, des peaux de chèvre, des peaux de toutes sortes de bêtes et tout ça. Il y avait même un animal polychrome qui avait été spécialement conçu pour l'occasion. Je crois que Rikel, ils se sont inspirés de lui, tu sais, le truc de toutes les couleurs multicolores là-bas. Il s'appelle un pot de tachash. Il est venu là-bas, il entourait tout le Mishkan autour du Mishkan. Chacun, il a apporté un petit peu de ce qu'il avait. Chacun qu'il avait quelque chose, il a apporté. Et là-bas, la Torah nous dit quelque chose d'invraisemblable. Qui c'est qui a apporté la chose la plus chère et la plus précieuse? C'est les Nessim, les présidents des tribus. Ils ont amené Avnim Ilouim et Avne Shoam, les pierres qui étaient sur le pectoral du Kohen Gadol. Et sur les épaulières qu'il avait le Kohen Gadol. C'était des pierres qui étaient très 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 précieuses et très très chères. Et pourtant, Or HaChaim HaKadosh nous fait remarquer que ces Nessim là, ils sont cités en dernier. Si jamais ils ont amené Ribono Shalom, ils ont amené la chose la plus précieuse et la plus chère, pourquoi on ne les cite pas en premier? Comment c'est possible une chose pareille? Et Rashi nous fait remarquer dans la paracha, dans le chapitre 35, verset 27, Rashi nous dit que parce que les Nessim ne se sont pas empressés pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qu'ils ne sont pas apportés la chose avec beaucoup de cœur et beaucoup d'abnégation, on leur a enlevé une lettre. Ça veut dire que Nessim, au lieu de l'écrire sans Yud, avec un Yud, on a enlevé le Yud. Et là-bas, les commentateurs nous disent que quand on enlève une lettre à un nom d'un tzadik ou d'une entité, c'est quelque chose de très honteux. C'est une grande honte pour les tzadikim. Ribono shel Olam, pourquoi ils ont mérité cette chose-là? Ils ont eu une lettre en moins à leur nom. Ils ont été cités en dernier alors qu'ils ont amené la chose la plus précieuse et la plus chère. Comment c'est possible? Le Or HaChaim HaKadosh nous fait une révélation extraordinaire. Ce qui compte dans l'Olam Haïlon, dans le monde de la vérité, ce n'est pas la valeur de la chose qu'on a amenée. Ce n'est pas l'American Express ou la Gold ou la Black ou la Black Card avec le diamant et tout ça. Ce n'est pas la valeur de la chose. C'est le cœur avec lequel on amène quelque chose. Si quelqu'un il amène 10 euros, mais qu'il amène de tout son cœur, ça vaut beaucoup plus que le parrain de la mafia qui a amené 3 milliards d'euros et qui fait le malin et qui fait le grand pacha et le grand parrain dans une soirée, tout ça. Il vient, le gars, il dépose les choses, il fait le grand pacha et tout le monde a peur. C'est vrai que dans l'Olam Hazeh, tu fais le kavod à ce mzrob là-bas qui est venu et qui a déposé là-bas. Il est venu le jour de Kippour avec sa Jaguar ou sa Porsche Ferrari. Il arrive là-bas dans le Yom Kippour avec sa carte bleue sur la tête. Il fait l'achat là-bas. Il dit je veux payer en carte le jour de Kippour. Il achète petit Khataïchal et tout ça à 50 000 dollars. Habibi, tout le monde le regarde avec beaucoup d'admiration. Ils ont peur de lui, ils tremblent devant lui et de ça, ils ont peur. Et là-bas, le petit mesquine, il est monté à la Torah, il a donné 10 euros. Qui c'est qui fait attention à lui? La Gemara dans Masechet Baba Batra Rabotai, elle dit qu'il y a un des Tanaïm qui est monté dans le ciel. Quand il est redescendu, il lui a dit qu'est-ce que tu as vu? Il lui a dit Olam Afuraiti, j'ai vu un monde inversé. Aïlionim les Matav et Atartonim les Mala. J'ai vu que ceux qui étaient en haut, ils étaient en bas et ceux qui étaient en bas, ils étaient en haut. Tous ceux qui faisaient les grands parrains de la mafia dans ce monde-là, qui avaient l'air d'être des gens chachouvim, qui étaient là-bas à la Knesset, à l'ONU, tous ces gens qui faisaient parler d'eux, qui avaient le feu des projecteurs sur eux, ben ils étaient de la poussière et de la cendre dans le Olam Aïlion, dans le Olam Aïmet, dans le monde de la vérité. Et tout celui qui était dans l'ombre en train d'étudier la Torah, de rechercher à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur et de faire Messirut Nefesh, c'était eux les grands patrons dans le monde. Rabotaï, c'est la même chose. Quelqu'un qui vient et qui amène de tout son cœur, peu importe si jamais il est très intelligent, peu importe s'il a beaucoup, mais l'essentiel, la qualité, c'est ce qu'il amène de tout son cœur. La Gemara dans Masechet Sanhedrin à la page Kouvav, elle dit à la page 106, Rahman Ali Babaï, Akadosh Bokhu, ce qu'il veut, c'est le cœur d'Ebné Israël, que quelqu'un il amène son cœur, il crie Vetatsmo, à tel point que nos commentateurs nous disent quelque chose de merveilleux. Quand il y a quelqu'un qui amène son cœur, quelqu'un qui amène de sa propre personne, un pauvre qui amène un korban, on appelle qu'il écrive un effet chez l'eau. On le considère comme si c'était approché lui-même à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il s'est privé. Il a investi de sa personne, il a investi de lui-même. De la même façon, on peut voir dans des grandes yeshivotes, des gens qui étudient, c'est des experts là-bas, des technocrates de la Gemara, ils tournent 24 pages par jour et tout ça. Tu le vois, le type, c'est le parrain de la mafia, il tourne dans tous les sens et tout ça, il sait tout le Tosfa, tout le Rashi, le Rizba, le Rajva, il connaît tout, il a toute la Torah dans sa tête. Et toi, le petit mesquine, chacun d'entre nous, que non, c'est pas très très bien étudié, on commence à ba, bé, bé, on sait même pas lire un rachis, on sait même pas qu'est-ce que c'est ces lettres, birlal et tout ça, on devient fou. On commence à essayer de comprendre un tosfot ou un pshat dans la Gemara. Habibi, sache que si Yamet étudie de tout ton cœur, ton limoud, il vaut 1 million de fois plus que lui, c'est ce que le Or HaChaim HaKadosh, il explique ici. HaKadosh Baruch Hu, il voulait le cœur. Voilà les Nessim qui ont amené la chose la plus précieuse, la plus chère. Mais ils l'ont pas amené de tout leur cœur, ils ont attendu, ils ont été un petit peu retardataires dans leur volonté d'amener la chose. Et les Bnei Israël, ils ont amené parfois de l'huile d'olive, ils sont cités en premier et ils sont cités en dernier. Voilà qu'on leur a enlevé une lettre de leur nom. Comment c'est possible? Parce qu'ils manquaient dans le cœur à Botaï. Si jamais on dit une chose pareille, alors on doit se demander une question. Et c'est marqué une Gemara dans Maseret Brachot pour corroborer ce qu'on vient de dire. Une Gemara dans Maseret Brachot à la page 20 d'Avkaf Amoud Aleph. Elle dit là-bas qu'il y avait des Chachamim dans la Gemara qui étaient en discussion pour savoir comment ça se fait que les générations d'avant, quand ils faisaient des tfilot, ils recevaient directement la pluie. Et la génération de la Gemara où ils étaient en train de parler, eux, ils avaient beau faire beaucoup de tfilot, ils ne recevaient pas la pluie. Ils étaient en train de se demander une question. Ils ont dit comment ça se fait que la génération de Rabbi Yehuda, il lui suffisait d'enlever ne serait-ce qu'une seule chaussure pour qu'une pluie torrentielle elle vienne et elle se déverse pour couvrir toute pour couvrir de bracha toute la plaine. Comment c'est possible que nous, on étudie, on fait des tfilotes, on se roule par terre, on fait toutes sortes de ségoulottes et tout ça, on enlève nos deux chaussures, on enlève nos habits, on fait des taniotes et des jeûnes? Parce qu'à l'époque, quand ils voulaient demander la pluie, ils enlevaient leurs chaussures avant. La Gemara, elle explique comme ça, et tout ça dans Ta'anit et la Gemara dans Brachot ici. Il dit, Rabbi Yehuda, il a enlevé qu'une seule chaussure. Alors ils ont voulu se demander une question. Naturellement, quand il y a une chose comme ça, on se dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas la pluie? Alors peut-être parce que la génération de Rabbi Yehuda, qui était deux générations avant la leur, qui était en train de discuter, ils avaient un niveau de Torah qui était élevé, plus grand. Alors on se dit, on sait très bien, c'est marqué dans la Torah, dans le schéma. Si jamais on va dans la Derech HaTorah et qu'on étudie la Torah et qu'il y a un grand niveau de Torah dans la génération, on sait que le monde entier, la bracha, elle est fixée par rapport à la Torah. Plus il y a de Torah dans une génération, plus le niveau il est élevé, plus la bracha elle est présente dans la génération. Alors ils se sont dit, peut-être qu'ils ont un degré de Torah. Ils ont dit non. La génération qui était deux générations après Rabbi Yehuda, ils étaient beaucoup plus bekim que les générations que deux générations avant. Alors ils ont dit, Ribono Shel Olam, c'est le yesod de toute la bracha. Ils se sont demandé, les Chachamim, ils ont dit, c'est parce que dans la génération de Rabbi Yehuda, ils faisaient une Messirut Nefesh, un don de même et un sacrifice de même beaucoup plus grand que dans deux générations après. C'est la raison pour laquelle cette Messirut Nefesh, elle est encore plus grande que la connaissance de la Torah et que la science dans la Torah, que la connaissance et la grande intelligence que quelqu'un peut avoir et les grandes connaissances qu'il peut avoir. Si quelqu'un, il étudie Messirut Nefesh, et Baruch HaShem, nous qui sommes un peu pas toujours très très forts dans le Limoud au début et tout ça, c'est facile pour nous. Si jamais on s'assoit et qu'on étudie et qu'on fait du hamal, ça s'appelle déjà Messirut Nefesh. C'est un sfout atzoum qu'on a. On a abandonné tout le olam hazé, on a tout délaissé. Quelqu'un qui est en train de poser sa tête, en train d'étudier et de répéter jusqu'à ce que ça rentre dans son cœur. Rabotai, le monde entier repose sur lui. C'est ce limoud là qui amène la bracha au monde entier. Ceci étant, on doit se poser une question ici. Est-ce qu'on peut soupçonner, Chas Veshalom, que les Nessim, ils avaient un manque d'empressement, un manque de cœur, à tel point que la Torah, elle est venue, elle a enlevé une lettre de leur nom? Et qu'ils ont amené la chose la plus précieuse, mais qu'ils ont été cités en dernier. Et ils ont reçu une grande punition aussi. J'ai oublié de vous dire cette punition qu'ils ont reçue. C'est que quand ils ont voulu apporter les choses, d'où est parti ce problème-là? Ce problème, il est parti, qu'ils ont trébuché. Le Yetzerara de la paresse, c'est ça qu'ils ont eu. Il s'est déguisé. Comme ça, il nous réexplique Rashi. C'est pas Rashi qui disait, les Nessim, c'est des Tzadikim, Gdoshe Elion, que nous on est de la poussière et on disparaîtrait juste si jamais ils posaient leurs yeux sur nous, on serait pas kayamim. C'est des tzadikim gmurim. Rashi nous explique pourquoi on a enlevé une lettre de leur nom. Il a expliqué tout le stratagème qu'il y a eu là-bas. En fait, le Yetzer Hara de la paresse, il s'est déguisé sous un air de philanthrope, sous un air charitable, sous un air de Baal Chesed. Il a dit, nous on est les grands patrons et les grands parrains, on a tout dans notre main. Si jamais on vient et qu'on amène tout l'argent maintenant, les Bnei Israël, ils n'auront rien de quoi investir de même. Donc, ils n'auront pas eu le sroud d'apporter de même pour construire ce Mishkan. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme un grand gars dans un gala. Le grand parrain, il ne parle pas le premier. Il laisse d'abord les autres et tout ça dire. Chacun, il va donner, sinon il va avoir honte. Et après, il vient, il complète le budget annuel de qui manque et tout ça. De la même façon, ils ont dit, on va laisser chacun apporter. Et ce qui manquera, nous, on va se coxiser, on va compléter toute la somme. Et ils savaient que c'était un budget tellement colossal qu'il allait rester quelque chose. Malheureusement, ils ont été pris de court devant la générosité des Bnei Israël et ils n'ont plus eu de quoi amener quelque chose. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu le tsar qu'ils ont eu à ce moment-là, donc nous, à première vue, on a l'impression, c'est quoi? Ça part d'un chesed. Rashi nous dévoile que ce chesed-là était caché là-bas de la paresse. Qu'ils n'ont pas voulu s'investir et faire de l'abnégation et de la Messirut Nefesh, ils se sont cachés derrière cette chose-là. Le Yetzer Hara s'est déguisé derrière là-bas, ce mzrob. Il est venu se mettre derrière ça pour essayer de les déstabiliser. Et il a réussi, Bavonot Arabim, il a réussi à les faire trébucher. C'est pour ça que dans Chanukah Tamizbeach, nous dit Rashi, ils sont venus les premiers. Ils ont dit, cette fois-ci, on ne fait plus de Cheshbon, de compte, ni de rien du tout. C'est eux qui sont venus les premiers pour amener les korbanot et amener les choses devant Akadosh Baruch Hu et Talé Shemolad. Alors, on comprend d'ici. Ces Nessim, là, ils pensaient bien faire, et le Yetzera, il a réussi. Alors, Akadosh Baruch Hu, quand il a vu leur tsar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber des pierres du ciel et ils ont apporté les pierres. Rabotai, c'est un grand tsar. Quelqu'un qui amène quelque chose de lui-même, quand bien même c'est un petit prouta, quand bien même c'est quelques centimes, mais il amène de sa propre personne, c'est un srout. Non, ce serait dit le contraire. Tu vas dans une soirée, ça, tu signes avec le chéquier de l'autre, t'es le meilleur et tout ça. Mais c'est pas ça, c'est pas vrai. Quelqu'un, quand il apporte de sa personne, qui s'investit, qui donne de lui-même à l'autre, il sent qu'il a fait quelque chose. Mais si tu viens et tu signes avec le chéquier de l'autre, c'est pas une chorma. De la même façon, la punition qu'ils ont eue, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas eu le scrou d'amener d'eux-mêmes. Ils ont amené des choses qui sont tombées du ciel et ils les ont apportées à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'était un tsar gadol qu'ils ont reçu à Botaï. Combien ils ont souffert de ça. Moraïber à Botaï. La paracha, chapitre 35, verset 20. Vayetsu, koladat bnei Israël milifne Moshe. Ils sont sortis, tous les bnei Israël, toute la communauté d'Israël, ils sont sortis devant Moshe. Quand Moshe Rabbeinu, il a été Osef, il a rassemblé toute la communauté, il a commencé à leur parler, à leur dire et tout ça, vous allez amener des choses et tout ça. Avant même que Moshe Rabbeinu, il a commencé à leur dire de venir pour fonder le Mishkan, ils sont tous sortis comme un seul homme, avec une volonté incroyable, comme des lions, ils sont sortis de là-bas. Et le tigre est en toi, il a libéré le tigre qui était à l'intérieur de lui, il a commencé à bondir de l'or à l'extérieur. Il a bondi, Haltoni, avec le bandana, vous le connaissez. Ça fait plaisir. Alors vous comprenez? Ils sont sortis comme un seul homme. Ribono shel olam, le Orachaim Akadosh demande, comment ça se fait qu'ils sont sortis tous comme un seul homme? Qui c'est qui leur a permis de sortir? Quand on sort de devant son maître, il faut demander le réchoute et sortir en reculant, avec beaucoup de Emma, de Ira, de Pachad, avec beaucoup de retenue et de déférence. Qu'est-ce que tu sors là-bas? Le monde, il est FKR. Qu'est-ce qui t'arrive? Et comment c'est possible que tous, au même moment, ils ont voulu accomplir cette chose-là? Généralement, quand on te dit d'amener de l'argent à toi et tout ça, tu vas réfléchir à deux fois, tu vas faire les calculs, tu appelles ton Jacqueline et tout ça, la comptable, expertise comptable et tout ça, tu vas bien et tout ça, tu vérifies les trucs, tu regardes si elle ne mettait pas en rouge à la Banque de France, à la Banque Centrale Européenne, et après tu fais le don. Là, ils sont sortis comme des maboules pour aller faire la chose. Comment c'est possible une chose pareille? Moraïbera Botaï, et Raïma Kadosh, il répond à cette question d'une façon incroyable. Ava Vasina Mekalkel et Ashura. Quand on a de l'amour, ça fait descendre la hiérarchie. Ça veut dire qu'ils ont perdu toute la notion des choses. À partir du moment où ils avaient cet amour, cet avat nefesh, d'Akadosh Baruch Hu, ce gargouim, ce languissement d'Akadosh Baruch Hu, il n'y avait plus de convention, il n'y avait plus de diplomatie, il n'y avait plus de loi, il n'y avait plus de règles. Ils sont partis tout de suite pour aller faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, ils sont sortis tous comme un seul homme. Je vous explique quelque chose de très très beau, Rabotai, ce que j'ai compris. J'espère, Bezrat Hashem, j'étais mechaven à la émette. Les commentateurs nous disent que le Rahaim Akadosh, il nous dit qu'ils sont sortis comme des lions, ils sont sortis avec toute leur itlavoute pour aller se languir de construire la maison d'Hachem, de faire un réceptacle pour la Shrina. C'était pourquoi, ils nous disent nos commentateurs, pour réparer la faute du Vaudor. Le Mishkan, c'est la réparation de la faute du Vaudor. J'étais mis de bonnet, je me suis demandé comment ça se fait. Qu'est-ce que c'est, en quoi le Mishkan, c'est la réparation du Vaudor? J'avais entendu une fois une Gemara extraordinaire dans Mirtav Melia où il ramène le Rav Dessler sur un shiur sur la Emouna. Une Gemara dans Masechet Sanhedrin à la page Samer Gimel, Amoud Alef, Amoud Bet là-bas, elle dit la Gemara à la page 63, folio B, pour les latinistes qui sont parmi nous. Ça fait plaisir parce que je sais qu'on nous regarde à Hong Kong et tout ça, alors ils préfèrent les chiffres en français et tout ça, les chiffres arabes comme on les appelle. Alors regardez, la Gemara là-bas, elle dit pourquoi le Vaudor a été fait? Quelle faute du Vaudor à Botaï? C'était Afle Vafel, c'était Atsum, c'était Nora Vayom, c'était quelque chose de très honteux. La faute du Vaudor, c'est Kala, c'est Zintata Khatakhupa, comme ça ils disent nos commentateurs. C'est une Kala, une fiancée qui a fait un acte de relation interdite sous le dénuptial. Alors qu'Akadosh Baruch Hu s'était dévoilé au Bnei Israël, qu'ils avaient fait sortir d'Égypte, qui s'est dévoilé à lui, au Am Israël, et tous les cieux se sont ouverts, et il y a eu ce mariage merveilleux et tout ça. On a eu un sroud de recevoir la Torah de Chah. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la mzroba du coin là-bas, la portugaise, et on est venu, on a fait ce vaudor là-bas, au plein milieu, on l'a posé là-bas, et on a fait une acte d'infidélité avec celui-là. Rabotai, c'est pas de la folie cette chose-là, de troquer ce ribono shel olam, le melech malcham lachim, contre un vaudor, ce mzrob là-bas, le fils de la vache qui rit. Et on est venu là-bas, on a commencé à faire des ch'touyotes et des danses de la holéloute autour de lui, et du nivoulpé et des ch'touyotes. Et qu'ils nous disent nos chachamim qu'on a été ouvert sur les trois verrotes capitales, des choses tellement chamourotes. Rabotai, comment ça se fait que les Bnei Israël ils sont arrivés à ça? Écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara dans Maseret Sanhedrin à la page 63, folio B. Les Bnei Israël n'ont fait la faute du Vaudor, n'ont fait le Vaudor, et là, les attire et tatsmam et tarayot, que pour se permettre les relations interdites et les relations incestueuses. C'est Nora, Rabotai. On doit trembler de ça. Quelqu'un, quand il a envie de faire quelque chose de très grave, il va se fabriquer des morées terribles et il va finir par y croire. Pour justifier sa confiance et apaiser sa confiance et résider dans une sérénité et pouvoir transgresser les choses en toute quiétude et en toute conscience, il va créer là-bas ce mzrob du Vaudor. Il va dire, regardez ce veau-là, il est très content de ce qu'on fait, il rigole et tout ça, il est content, il n'y a pas de problème et tout. Rabotaï, tout ça, c'est venu de quoi? Du fait qu'ils n'ont pas eu la force de lutter, en fait. Écoutez bien cette chose-là. C'est les harayot, cette volonté de faire des tavot, elle vient d'où? Elle provient d'où? Bessiatadishma, c'est ça que j'étais mégalé dans ce pchat-là, magnifique. D'où ça vient quelqu'un qui n'est pas capable de lutter contre ses harayot? De la tsloute, de la fainéantise, de la paresse. Quelqu'un qui n'est pas capable de lutter contre ses passions et ses pulsions. Qui n'est pas capable de faire messirut nefesh pour réussir à faire en sorte de dompter l'animal qui est en lui. D'arriver à dresser le Yetzerara qui est en train de se battre contre lui, comme a dit la Gemara dans Maseret Brachot, dans le dernier Perek. Yetzeratov Shoftan ou Yetzerara Shoftan? Est-ce que c'est le Yetzeratov qui est ton chauffeur ou est-ce que c'est le Yetzerara? Quelqu'un qui n'est pas capable, qu'est-ce qu'il va dire? Ben ça va, j'ai pas les forces de lutter, j'ai pas les forces de me battre et tout ça. Donc il va se livrer à tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les kohot. Comme il n'avait pas les forces, ils ont fabriqué une circonstance atténuante qui venait leur légitimer ces relations interdites. C'est la raison pour laquelle Rabotaï, quel est le tikkun de la fainéantise? C'est la Messirut Nefesh. Ils sont venus et ils ont fait le Mishkan. Mais ce Mishkan, ils ne l'ont pas fait de façon contrainte et forcée. Ils l'ont fait avec tout leur cœur, avec tout leur amour, avec toute leur abnégation. Ils sont venus comme des lions, tous ils sont sortis. Ils ont dit, c'est cette fainéantise qui nous a fait arriver à une chose aussi grave. La réparation de cette fainéantise et de cet atzlout, de cette paresse, c'est la Messirut Nefesh avec laquelle on va construire la maison d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont voulu montrer à Akadosh Baruch Hu que cette fois-ci, ils allaient briser le Yetzera, ils allaient se battre contre lui et que plus jamais ils trébucheraient dans ça. C'est merveilleux, Rabotai, ce pshat-là, c'est atzoum. Et le Ramban nous dit, comment se fait-il que la Torah Akdosha, elle répète 5 fois le récit du Mishkan? 5 fois, c'est marqué le récit. On sait très bien qu'il n'y a pas une lettre de plus ou de moins. Rabotai, le Ramban nous explique qu'il n'y a pas une. Les commentateurs nous disent qu'il n'y a pas une lettre en plus ou en moins dans la Torah Akdosha. C'est quelque chose. Il n'y a rien. Comment c'est possible qu'on est venu et qu'on a répété pendant 5 fois ce récit de la création du Mishkan? Quelque chose d'invraisemblable. Le Ramban nous répond à la Makom, quelque chose de merveilleux. Il nous dit que ce Mishkan-là, c'est quelque chose qui montre la Messirut Nefesh et l'amour des Bnei Israël et l'entrain et l'enthousiasme et le zèle et la zrizout avec lesquels les Bnei Israël ils ont fait cette chose-là. Quant à Kadosh Baruch Hu, il a vu avec quel amour ils avaient procédé à cette chose-là, il a voulu le répéter, le répéter, le répéter. Parce qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu voit la Torah Akdosha, c'est la seule chose qui lui procure de la joie dans tout cet univers, dans tous ces marboulim et ces mzrobim qui sont dans le monde. La Torah Akdosha, c'est la seule chose qui amène du nachat ruach, de la sérénité à Kadosh Baruch Hu. Il a voulu le répéter 5 fois en se souvenant de ça. Et chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il se souvient de ça, ça amène des mérites au Am Israël. Comme ce récit du Mishkan n'était pas marqué par la paresse, il était marqué par la Messirut Nefesh. À Kadosh Baruch Hu, à 5 reprises, il est revenu. Et il y a une question qu'on pose. C'est marqué l'Echol Asher Idevenu Libo. Tout celui qui aura la générosité du cœur, il est appelé à amener des choses pour faire le Mishkan, pour faire la maison d'Akadosh Baruch Hu. Moray Berabotai. Où c'est qu'on a vu une mitzvah dans toute la Torah Kedosha, hein? Où c'est canal satellite, TPS, tout ça, la télé à la carte et tout ça. Comme nos amis et tout ça. Parfois, on fait la Torah. Qu'est-ce que tu choisis dans la Torah? Ben moi je fais le Shabbat, ça c'est non, ça oui, ça, c'est la Torah à la carte, c'est pas TPS, c'est Torah à la carte. Le type il est en train de combiner une chose et tout ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Normalement la Torah elle vient, elle met de sa veotra, elle t'oblige, elle t'ordonne à faire quelque chose. Qu'est-ce que toi tu viens? L'école la chère est devenue libo. Tu viens, celui de Siam t'as envie de faire la chose, tu le fais. Siam t'as pas envie d'amener, tu n'emmènes pas. On a vu une mitzvah comme ça. Shirachirim Rabotai. Raviamin Toledano. Un de mes maîtres, qui est un des Rashi Kolelim de Slabodka, hein, une grande sommité, Baruch Hashem, hein, des Sfaradim, ils sont arrivés à Slabodka en force et tout ça. Il y a même des Rashi Kolelim là-bas. Ça fait plaisir. Il m'a dit un pshat dans Shirachirim, quelque chose de merveilleux à la fin du 3e chapitre de Shirachirim. Apirion, Ashalom, Melech Shelomo. Amelech Shelomo, à chaque fois qu'on cite Amelech Shelomo, on sait que c'est Shlomo Amelech qui a écrit le Shirachirim, Kodesh Kodashim, il dit Rabbi Akiva que c'est la chose, une des choses les plus kdoshot du monde, Shirachirim, l'histoire d'amour entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. À chaque fois que c'est marqué Amelech Shelomo dans Shirachirim, on parle de Amelech Shalom Shelo, c'est Akadosh Baruch Hu. Apirion Amelech Shelomo, le palais d'Akadosh Baruch Hu. Asakesev Refidoto Zahav, Tohoratsuf Ahava. Merkavor Gaman Tohoratsuf Ahava. C'est marqué que il avait des piliers qui étaient en bois de chitim. Ces piliers en bois de chitim, en bois de chitim, ils étaient recouverts d'argent et d'or. Et aussi de argaman, c'est de la couleur pourpre. Toho Ratsu Fahava. L'intériorité de cette maison d'Akadosh Baruch Hu, c'était quoi? C'est le Kodesh HaKodashim, le Mishkan, dans lequel il y avait la Torah Akdosha. Toho Ratsu Fahava. C'est quoi ce qui pénètre et ce qui est la dimension centrale de tout ce Mishkan? C'est quoi? C'est l'amour. C'est le verset Ve'afta et Hashem Elokecha Bechol Levavcha Ufchol Nafshecha Ufchol Meodecha qu'on dit toujours dans le schéma Israël. ce mir. C'est là qui est tellement important, c'est ça la base de toute la Torah, c'est ça la base de tout le Mishkan. C'était ça, Tohoratsufa avant. L'intériorité était habitée par l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour dans Kadosh Baruch Hu, que l'homme doit être prêt à donner sa vie pour Hachem. Il doit être prêt à donner tout son cœur, toute son âme, tous ses moyens financiers, toutes ses midotes, il doit tout donner pour Kadosh Baruch Hu. On comprend très bien. Ce Mishkan-là, il visait à la réparation de la faute du Hegel. La faute du Vaudor, elle a été occasionnée par une trahison. Maintenant, il fallait éprouver notre amour pour Akadosh Baruch Hu, Toho Ratzouf, avant de remettre cette dimension d'unicité et d'amour envers Hachem. On comprend alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il est venu. Il a demandé celui qui a la générosité du cœur qu'il amène. Mais celui qui n'a pas la générosité du cœur, il ne pourra pas faire en sorte d'amener cette dimension de l'amour. Donc, ça ne sert à rien qu'il amène les choses. Parce qu'on ne cherche que des gens qui sont capables d'amener cette dimension qui a été bannie quand ils ont fait le Vaudor et de la restaurer pour restaurer le Kesher avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que chacun qui avait un bon cœur et qui voulait amener de tout son cœur, il était le bienvenu pour amener cette chose-là. Pour revenir sur la Hatzlout, sur la paresse, qu'on voit que c'était la cause donc de Bessiata Dishmaya, Bezrat Hashem, j'espère qu'on n'est pas à Toé, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous éclaire dans la bonne direction, Bisroutrem, Bezrat Hashem. On nous dit que la Hatzlout, c'est ce qui a été à la base et à l'origine de cette faute du Vaudor, que la Gemara nous dit que jusqu'à aujourd'hui, c'est une Gemara dans Maseret Sanhedrin, à la page Kouf-Bet, si je me rappelle bien, la Gemara à la page Kouf-Bet, elle nous dit que dans chaque génération, on paye la faute du Vaudor. Ça veut dire que dans chaque génération, il y a cette paresse. Et le tikkun de la faute du Vaudor, c'est la Avoda Bemesirut Nefesh. Est-ce qu'on a été mechadash avec ma chavruta, Rav Emmanuel Mimran, ce matin? On sait que c'est un Rabbeinu Yona, il nous dit que quand quelqu'un il a fauté, avec la même itlavout qu'il a fauté, il doit faire une Mesirut Nefesh pour faire sa tchouva. Si on a fauté, qu'on était mitlev, qu'on était emballé et entraîné dans la vera, et on sait combien ce Yetzerara, ce Mzrob, il nous enflamme et il nous embrasse quand on a ce Warshtout qui nous rentre dans la tête, comme il dit le Rambam, Adam Khotela Imken Nirnasbo Warshtout. Un homme ne peut fauter si ce n'est que le vent de folie, il est venu en lui. Il est comme un Maboul, le gars qui va fauter. Il est capable de vendre le monde entier. Il est fou, il a envie de faire une faute. On imagine cette faute du Vaudor, combien ils se sont investis et qu'ils se sont engagés. Ils sont venus, ils ont été capables de s'arracher les boucles d'oreilles des oreilles. Ils ont fait cette chose très vite. Aaron, il a voulu retarder l'échéance et tout ça pour attendre Moshe Rabbeinu qui redescende. Il a dit, peut-être si jamais on demande les bijoux aux femmes et aux enfants, ils vont s'attacher à ça. Ils ont été capables de s'arracher, de faire Messirut Nefesh. Quel était le tikkun? Il fallait qu'il y ait de la Messirut Nefesh aussi. C'est pour ça qu'ils sont sortis comme un seul homme dès qu'ils ont entendu la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui était de reconstruire et d'apporter d'eux-mêmes. Amenez de vous-même, Rabotai, amène de toi-même, sacrifie-toi, bats-toi pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça le tikkun. On a fauté, combien on va faire pour pouvoir réparer les fautes qu'on a fait avec Messirut Nefesh, de la même façon qu'on a fauté. Et comme ça, il dit le Rabbeinu Yona. Il dit quelqu'un, et c'est Yichot Shuva Rambam, il dit aussi comme ça, quelqu'un qui a fauté dans un jeune âge. Il ne faut pas qu'il attende son vieil âge, parce qu'il n'a pas le même Yetzerara. C'est facile. Le type, c'est un vieux pépé de ça, et il va dire, ah voilà, je ne siffle plus les chèvres là-bas et tout ça. Rabibi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enorgueilles de ça, tu sais même plus siffler, t'as plus dedans. Tu dois avoir la même itlavout que tu avais et tu dois réussir à dominer tes passions et tes pulsions en l'état actuel des choses. Ça s'appelle tshuva shelema. Que le type, il est dépositaire des mêmes forces et qu'il est capable de se battre et de se dominer à Rabotai. C'est la raison pour laquelle les Bnei Israël, ils ont fait ce tikkun d'une façon extraordinaire. Messiah Tisharim au chapitre 4 nous enseigne comment ça se fait que l'homme, il n'arrive pas à se battre et il n'arrive pas à lutter. C'est la nature et c'est le teva de la bria, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, il nous a créé comme ça. Il faut savoir que la différence entre l'homme et l'ange, c'est ça. C'est que l'ange, il accomplit les choses d'une façon très très vive. Il est vivace, il court, il est zélé pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. À tel point qu'il y a un verset qui dit qu'il accomplit la chose avant même d'avoir reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il a accompli la chose. Quelque chose d'invraisemblable. C'est ça, Nase Venishma. Je ferai et j'entendrai. Mais comment tu peux faire si jamais tu n'as pas entendu? Je dois être prêt à faire en sorte que si jamais j'entends la moindre chose ou je sais la moindre chose, avant même qu'Akadosh Baruch Hu me dise, je cours pour faire les choses. C'est pas une avoda de Eved, c'est une avoda de Ben, Rabotai. C'est la différence entre l'avoda de Ben et de Eved. C'est dans le Quelques gouttes de lumière pour l'éternité, version audio, c'est le troisième CD. Là-bas, il y a un shiur magnifique qui s'appelle Servir Akadosh Baruch Hu avec amour comme un fils. La différence qui existe entre le service d'Akadosh Baruch Hu comme un fils et comme un serviteur, Rabotai, elle est très simple. Le serviteur, quand il arrive, il est fatigué, tout ça. Si jamais le maître n'a pas expliqué explicitement sa volonté, il va rester dans son coin, il reste là-bas dormir. Il a un sarcophage là-bas, même le sol. Il dort, il se repose. Si son maître, il appelle, il se lève et il court pour aller faire la volonté de son maître. Si jamais le maître, il lui a pas expliqué avec beaucoup de détails ce qu'il a besoin, il fait pas la chose. Ce qui n'est pas le cas rabotage du Ben. Le Ben, quand il voit son père arriver, avant même que son père y soit arrivé, il arrive tout de suite avec la meilleure boisson qu'il a commencé à chercher. Qu'est-ce que son père il aime pour lui donner? Qu'est-ce que son père il va pouvoir lui faire le plus grand nachatroir? Rabotai, il a avoda qu'on a à faire. Naase venishma, c'est ça la grande avoda d'un Ben Israël. C'est de faire en sorte de faire une avoda de Ben. De ne pas servir à Kadosh Baruch Hu de façon pesante. Et qu'on va monter les marches là-bas de la dira là-bas, comme si on était en train de revenir de la guerre et tout ça. Au contraire, on marche avec beaucoup de zrizout, on entre en courant, on est comme des maboules et tout ça, on est heureux, on est fou de joie de la Torah de Chah. Rabotai, c'est ça la voda du Ben. On vient, on devance à Kadosh Baruch Hu comme les malachim. Quelqu'un, il doit sentir cette chose-là. Il doit être comme un malach. Le malach, il fait la chose, après il entend. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On écoute. On se dit, mais on n'est pas capable de faire ça, donc on ne fait pas. Habibi, naase venishma. Tu vas d'abord faire, après tu vas savoir si elle était capable ou pas de faire la chose. Il dit, c'est ça la différence entre l'ange et l'homme. L'homme, il se pose toutes sortes de questions. L'ange va dans le feu, il va dans le feu. Va dans l'eau, il va dans l'eau. Va d'un côté à l'autre du monde, il va. Il n'a pas de questions. Il voit toute cette sifrière là-bas. Il commence pas à se dire, mais comment je vais faire pour finir ça? En, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit que j'étais capable. En davar omed bifnei ratzon. Rien ne résiste devant la volonté, je vais me donner à fond. Et je réussirai parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne toutes les kohotes. C'est comme ça qu'il réfléchit l'ange. L'homme, pourquoi il n'est pas comme ça? Parce qu'il vient du afar. Le afar, c'est la poussière à Boutaï. On sait que cet homme-là, il a été créé à partir de la poussière. La poussière, c'est quoi? Toute la journée, là-bas, elle dort. M'chafhala, comme vous. T'as déjà vu la poussière qui est énergique ou quoi? Tu viens avec le perroquet de toutes les couleurs. Tu l'as fait comme ça, tra, tra, tra. Elle commence à s'agiter, à se réveiller, à s'activer. Mais si jamais tu la laisses, la poussière, elle peut rester là-bas. Tu peux être enseveli comme le gars de le méchant homme de neige là-bas, qui s'est fait ensevelir sous l'avalanche. Tu te rappelles de lui? Je me rappelle plus comment il s'appelle, le King Kong là-bas, ou je sais pas comment il s'appelle. Tu vois, le type, il arrive avec sa poussière là-bas, il est recouvert de poussière jusqu'à là. La poussière, c'est quoi, Rabotai? L'homme, il est venu de la poussière. Il aime la terre, il aime se mettre sur le sable chaud de la plage. Hen Fitcham Sui est en train de bronzer là-bas, d'un côté et de l'autre. Ce Mzrob là-bas, il est en train de bronzer d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Habibi, tu te cacherises ou tu te décacherises? Tu vas à Freshman ou Freshwoman? Ouais? Et le gars, il va d'un côté et de l'autre. Hak, 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 hak. Habibi, tu t'es pris pour un shawarma pour tourner comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? L'homme, il vient du Afar à Botaï. Le Afar, c'est la poussière. La poussière, c'est celui qui aime le sable chaud. Il aime se mettre là-bas, se dandiner là-bas comme un singe là-bas. Habibi, tu te rends compte que ta Neshama Kdosha et Teora qui est le porteuse du Ensof, Eloki, tu as le Ensof en toi, tu as l'infini en toi, Habibi. Tu as l'étincelle de la Kadosh Baruch Hu. C'est quoi, toi, ta vie? Tu t'es retrouvé là-bas à être le Marlon Brando là-bas avec la coupe du cheval et tout ça, et tu fais le coq là-bas, tu te coiffes pendant 12 heures d'affilée, tu te mets l'habit là-bas, la montgolfière là, stressée là-bas comme ça, stressée, le truc. Habibi, qu'est-ce que tu fais avec ce corps-là qui vient de la poussière? Il va retourner à la poussière, c'est de la poussière. C'est pour ça que t'aimes le sol, t'aimes le sable, t'aimes te reposer. C'est pas grave, Rabotai. Pourquoi on aime ça? Parce que c'est notre nature. Mais il faut lutter contre ça. La deuxième chose qui est le constituant de l'homme, c'est Chomriout. La matérialité, nous dit le Ramchal dans le 4e chapitre. C'est la quête du plaisir. L'homme, il est toujours à la recherche du plaisir, toujours comme la centrale nucléaire là-bas, qui est en train de chercher là-bas, la NASA là-bas. Il est en train de regarder là-bas, toute la journée en train de regarder, avec ses yeux là-bas qui sont les inquisiteurs. Les yeux, c'est les inquisiteurs. C'est pour ça que c'est marqué, les miraglim, c'est marqué Tatourou, la chante Tatourou. De la même façon, Velo Tatourou, ne regarde pas avec tes yeux et ton cœur qui te guideront vers la fidélité, parce que les yeux, c'est les explorateurs du cœur. Ils vont aller chercher là-bas. Hop, le type, il a envie de faire quelque chose, ses yeux, ils vont partir là-bas. Ah, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. L'homme, il est plein de poussière. Il est plein de matérialité qui est la quête du plaisir. Et la conjonction de ces deux choses, nous dit le Ramchal, ça le rend grossier. Et c'est pour ça que la Torah Kdosha, elle nous prévient. À la page, la Gemara Maseret Brachot, à la page 32, folio B, elle nous dit là-bas que d'ivrei Torah tzrichim chizuk. Quelqu'un qui veut étudier la Torah et se lancer dans la Avodat Hashem, il doit se renforcer, se réchauffer le cœur avec des paroles de Moussar. Il doit toujours se renforcer et s'embraser toute la journée en train de lutter contre ça, parce que sinon il retourne là-bas comme la poussière. Il retourne là-bas, le gros lard du McDonald's là-bas. Tu vois, le type, il a mangé 12 000 steaks et tout ça. Il a mangé beaucoup de choses au Burger Ranch ou Burger Bar là-bas. Il a mis plein de trucs. Tu le vois, le type, il est affalé là-bas. Il n'est pas léger parce qu'il est plein de matière. La Torah de Chal te dit, tu veux réussir à lutter contre cette matérialité, fais rentrer de la lumière en toi, fais rentrer de la Torah, fais rentrer de la Messirut Nefesh, fais rentrer de l'abnégation, bats-toi contre toi-même. Et ve'askanamer ve'kal kanesher ve'ratskatsevi ve'gibor karil asod retsona vitnu shebashamayim. Comme ça, il dit le Pirkei Avot. Sois askanamer, sois comme une panthère, Habibi, contre le Yetzer Hara. Tu vois le Yetzer Hara qui vient pour se moquer de toi. Tu vois des gens qui viennent se moquer de toi parce que t'es à la Yeshiva, mais Habibi, t'es le plus grand milliardaire du monde. tu vas commencer à te poser des questions parce qu'il y a des mzrobim qui sont en train de rigoler de toi. Mais c'est eux qui font de la peine, les pauvres, qu'Akadosh Baruch Hu les ramène bitchouva chez les mains et qu'ils aient le sroud de venir avec nous. Chaque jour, on doit prier pour eux, Rabotai. C'est un sroud qu'on a d'être à la yeshiva. Et Veas Kanamer, tu dois être effronté. Ça s'appelle Azout de Gdusha. Quand le Yetzera, il vient et qu'il essaye de te refroidir et te dire toutes sortes de choses, tu dois bondir comme une panthère. Il gaber carrier. Ça a été retenu à l'Ibad El Rita, la première alakha, Gaber Karié, la Sod Retsonavir Hashemashamaim, la première alakha du Shulchan Aruch. L'homme, il doit rugir comme un lion. Quand il sait que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il doit lutter de toutes ses forces. Il doit être léger, à l'inverse de justement ce qu'on a dit, que nous, on est Kaved avec la Chomriout. Tu dois être Kalkanesher. Tu dois être léger comme un aigle. J'avais entendu une fois un pirouche, Rabotai, l'aigle. C'est un animal qui est léger. C'est un des plus grands prédateurs les plus lourds. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Sois léger comme l'aigle. Soit léger comme le papillon là-bas, ou comme une fourmi. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire, cet animal-là? J'avais entendu quelque chose de merveilleux. On sait que dans la Kabbalah, le soleil, il est considéré comme la Shrina. La lune, c'est Knesset Israël. L'aigle, c'est le seul volatile qui est capable de voler en regardant le soleil en face sans se brûler la rétine. Il n'a pas peur de regarder le soleil. Il a un œil très spécial, il est capable de regarder le soleil. Un homme, quand il veut avancer dans la Avodat Hashem, il est plein d'entrain et plein d'enthousiasme, mais ad gvul mesouyam, jusqu'à une frontière. Il se dit, ouais, il faut que j'avance, mais pas trop quand même. Ça va, je vais pas aller trop vite. Je vais pas aller trop loin. Je vais pas me rapprocher trop d'Akadosh Baruch Hu. J'ai pas dit maintenant que du jour au lendemain, on va devenir Moshe Rabbeinu, Baba Salé, faire des jeûnes et se rouler dans la neige et tout ça. J'ai pas dit ça. Mais l'homme ne doit pas se dire, moi, je fais la Avodat Hashem, je suis venu faire tshuva l'Yeshiva, je prends une année, après, je vais après, je concilie les deux. Habibi, Adasof, tu t'approches jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Tshuva ad Hashem Elokecha. L'aigle, il vole jusqu'au soleil, il va là-bas, il a pas peur du soleil, toi aussi tu te brûleras pas les yeux, ne t'inquiète pas. Vole, sois léger comme l'aigle, ne sois pas kaved, ne sois pas lourd. Quand tu avances vers Akadosh Baruch Hu, Vekal Kanesher Veratskatsevi, il y a aussi un truc de Ratskatsevi, je vous le glisse en passant, même si c'est pas trop dans le sujet, sachant que j'ai à peu près 3 heures de conférence à vous dire encore, Bezrat Hashem, et j'espère que vous êtes avec nous, vous gardez le contact et tout ça. Ratskatsevi, sois rapide comme le cerf. C'est vrai, le cerf, c'est le plus rapide, hein. Pour ça, la voiture, elle s'appelle pas la Jaguar, elle s'appelle le cerf. Tu vas avec le cerf, ah, il est bien ton cerf et tout, hein, ça va tranquille. Le type, il arrive en cerf, il passe pour un marboule, c'est un mesquin. Il arrive en Jaguar, il est respectable. Comment, si jamais le cerf c'était le plus rapide des animaux, Rabotai, on aurait fait la voiture, ça serait pas le Jaguar, ce serait le cerf. Il y a des animaux qui sont beaucoup plus, le guépard, le léopard, ils courent là-bas dans la jungle et tout ça. C'est des grands. Le cerf, il court un peu, mais bon, pas trop. Rabotai, la force du cerf. On nous dit que ça, c'est le chemin pour faire la Avodat Hashem. Vous avez vu Bambi dans votre enfance. Toujours Bambi, elle se retourne pour voir ce qu'il y a derrière. Quand tu fais la Avodat Hashem et que tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu Rabotai, tu es en quête d'Hashem Yitbarach, n'oublie pas tes frères qui sont derrière toi. Jette un œil derrière pour les ramener avec toi. Parce qu'ils ont besoin de toi, tes frères. Tu dois te tourner comme un cerf. Toujours, n'oublie pas tes frères qui sont derrière. Ne commence pas à mépriser les autres parce qu'ils n'ont pas eu le sroud de faire tchouva, au contraire. Soit sache que tu as eu le grand sroud, mais que ce sroud, il est méchaïev au trait d'amener tes frères avec toi, de les encourager, de faire en sorte que chacun il amène et qu'il avance. C'est la plus grande chose qui soit, la plus grande tzedaka du monde, il nous dit les commentateurs. Quelqu'un qui ramène une neshama à la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire, Rabotai. C'est un srout atzoum. Alors, Rabotai, la Torah nous dit que Eveas Kanamer, pour lutter contre ce teva du sable chaud, du shawarma, de toutes sortes de quêtes de plaisir, de la grossièreté que le Yitzhara a fait entrer en nous. Un homme, il ne doute pas de l'importance des mitzvot. Il sait que quand il va se réveiller de bonne heure le matin, c'est un sroud extraordinaire. Il va venir dans les 10 premiers dans la tfila. Il va prendre le sroud de tous ceux qui viennent après à la tfila. Il est prêt à faire Messirut Nefesh. Qu'est-ce qui lui fait en sorte qu'il n'arrive pas à faire Messirut Nefesh dans les bons? Quand on va faire Messirut Nefesh pour mettre des reprises dans la lucarne, Rabotai, des retournées acrobatiques et tout ça, à la fin du seder et tout ça, on a des kohot et tout ça. Vous me suivez? Mais par contre, quand c'est pour se lever pour aller faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu, ouais, Habibi, ouais, t'as un Messirut Nefesh. Pourquoi tu te lèves pas de ton lit, t'es en train d'hiberner tel un tigre de Bengale ou tel un ours polaire là-bas? Comment c'est possible? Et Tzara, il te fait faire Messirut Nefesh là où il faut pas. La paresse, il faut s'en servir. Quand il te dit, allez, Habibi, on va aller à Ibiza danser avec les collègues et tout ça, c'est la fête et tout ça. Là, je suis trop fatigué, je peux pas y aller. Vous savez pourquoi ils dansent toujours comme ça? Ce qui montre ce qui va leur arriver quand ça arrive dans le ciel après. Vous connaissez? C'est à Londres que j'ai découvert cette blague. Alors vous comprenez? C'est ce que ils ont pas rigolé parce qu'ils allaient parfois. Je rigole avec vous, c'est bon, on peut se détendre un peu parfois. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Là, à ce moment-là, il faut se servir de la paresse. Il te dit d'aller faire une ch'touillotte, d'aller te dire à Ben Yehuda, ah non, je suis trop fatigué à ce moment-là. Il te dit maintenant, tu vas te battre et tout ça, t'as la zrizout qui vient en toi pour faire de la gmara, pour faire du limoud, pour faire du chizouk, pour faire du chesed, pour aider mon frère, pour aider celui qui est dans le besoin, pour aider quelqu'un. Là, on doit se servir de la chose. Rabotai, comment le Yetzara, il a réussi à nous dégrader, à nous descendre? Comment, si quelqu'un il a conscience de la valeur inestimable de la Torah et des mitzvot, comment c'est possible que quelqu'un il n'est pas capable de lutter? C'est parce que le Yetzer Hara Rabotai, il te fait croire que tu es à moins que rien. Il nous fait croire qu'on est des ratés, des pauvres types. Il te fait croire, mais toi, tu n'es pas capable. Mais comment tu vas faire? Tu es petit, qu'est-ce que tu fais? Tu as vu où tu es né? Comment tu vas faire? Tu n'es pas capable. Il te diminue, il te minimise. Il fait en sorte de te rendre un baobab, comme disait notre maître Abendata. Il te rend comme un baobab là-bas, du petit prince là-bas. Alors que toi, tu peux être une centrale nucléaire et Atsum. Tu es devenu là-bas un baobab. À ce moment-là, quand quelqu'un il prend conscience de ça, lui, etc., il lui a donné une force très très grande. C'est qu'il va se justifier pour chaque chose. Il va dire, mais je sais pas parce que je suis un pochéa ou que je veux pas respecter la Torah, je veux pas faire les mitzvot et tout ça. Non, je suis pas capable. Donc j'ai toutes les excuses du monde. À partir du moment où je suis pas capable, je ferme mes oreilles, je ferme mon cœur et je suis insensible au émet et je suis hermétique. Comme ça, lui, etc., il a réussi à faire en sorte de serrer quelqu'un et de le faire sortir complètement de la dimension de Ben Alia, d'un homme qui va monter, qui va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, en faisant dire que finalement tu es rien et tu es incapable de faire des choses. C'est pourquoi le Chazon Ish nous dit Adam ki amud ba'oel, la Gemara dans Maseret Brachot vers la fin, dans le dernier Perek aussi, En adivre Torah mitkayemim elash mimish memit atatsmo alia, les paroles de la Torah Akdosha ne peuvent s'accomplir que pour celui qui est prêt à mourir pour elle dans l'attente. Il est prêt à mourir pour la Torah Akdosha jour et nuit, il étudie pour la Torah, il s'investit de tout son cœur, de toutes ses forces. Vechi moray berabotai, demande nos commentateurs, vechai ba'em velo yamud ba'em. Les paroles de la Torah, c'est fait pour vivre avec elles, c'est pas fait pour mourir. Qu'est-ce qu'on nous dit que l'homme doit étudier jusqu'à ce qu'il meure dans sa tente? De quoi on est en train de parler ici? Sheila Nosefet, une autre question qu'on pose. David Amelech alav shalom dans les Tehillim, il dit Alecha o'agnu kol hayom. Akadosh Baruch Hu, pour toi, on est mort toute la journée, on meurt toute la journée. Habibi, t'as déjà vu quelqu'un qui meurt plusieurs fois dans la journée? Un type, il meurt qu'une seule fois, il va là-bas, les voyants, on l'amène à Meavesrim, il remonte là-bas auprès d'Akadosh Baruch Hu, il est tranquille. Mazé, Alecha o'agnu kol hayom. Messirut Nefesh, Rabotai, il y a deux définitions. Messirut Nefesh, ça veut dire transmettre son Nefesh, sa Neshama, son âme à Kadosh Baruch Hu, que quelqu'un, il doit être prêt à donner son âme pour Hashem Yitbarach. Si jamais quelqu'un, il lui dit, fait une des trois avérot capitales de la Torah, le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites, il doit être prêt à donner sa vie à ne pas transgresser la Torah Akdosha. Messirut Nefesh, comme nos frères qui sont morts pendant la Shoah, pendant l'Inquisition, on leur a donné le choix entre la vie et le mensonge. Entre le mensonge et la mort, pardon, ils ont choisi la mort. Ils préféraient mourir pour la vérité que de vivre dans le mensonge, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous malheureusement dans la génération. Quelqu'un, il peut toute sa vie vivre complètement en décalage avec le Emet. Il n'a pas de problème. Au lieu de se décaler, il décale la vérité, comme on a dit tout à l'heure. C'est ce qu'ils ont fait pendant des générations du Vaudor. Ils ont dit, au lieu de se décaler pour se mettre en phase et pour lutter, ils ont décalé la vérité pour avoir la conscience tranquille. Adam qui amoud baouel, un homme il doit être prêt à donner sa vie pour Akadash Borou, c'est le premier pchat. Une deuxième pchat qui dit, ça c'est au nom du Chazonish, quelque chose de merveilleux. Le lachon de Nefesh, il est employé par Avraham Avinu quand il a voulu enterrer sa femme Sarah avec les Bnechet. Il leur a dit, si jamais c'est votre volonté, alors que je puisse acquérir ce terrain pour enterrer la femme, Abotai, il a employé le mot Nefesh. Qu'est-ce que c'est ce mot Nefesh? C'est le lachon de volonté. Nous dit le Chazon Ish, chaque fois que quelqu'un il a envie de faire une Avera Chamoura et qu'il est capable de se retenir, qu'il est capable d'être mitgaber sur son Yetzer et de se battre et de lutter contre lui-même, on considère comme s'il est mort Al-Kiddush Hashem, comme s'il était mort en donnant sa vie à Kadosh Baruch Hu. Tu le vois, tu te dis, si jamais je ne dis pas cette parole là-bas, si je ne fais pas cette vanne et que je le casse devant tout le monde, que je vais le terrasser de ça, casser. Vous vous rappelez de casser? C'est le gars qui ne sait pas, il fait casser en bas, il se fait casser en haut. Il a oublié ça. Le type, il a une vanne légendaire. Il a envie de bombarder l'autre. Il sait qu'il peut faire en sorte que tout le monde va l'aimer parce qu'on existe aujourd'hui par la négation de l'autre, on existe, on s'affirme comme ça. Avec tous ces touillottes qu'on a pris en France, avec le canal enchaîné, les guignols de l'info là-bas et tous ces mzrobim. Qu'ils se moquent toute la journée du matin jusqu'au soir. On connaît la gravité de la letzanout dans la Torah à Rabotai. Combien c'est khamour, combien c'est grave. Il dit un type qui est capable, au moment où il a trouvé une vanne légendaire, de ne pas la dire. Si jamais je ne dis pas ça, je vais mourir. Vous connaissez, on dit ça souvent. Si jamais je ne mange pas ça, je vais mourir. Si jamais je ne fais pas cette avéra, je vais mourir. Si jamais j'arrête de faire ça, je vais mourir. Et bien la Torah, elle nous dit le Chazon Ish, qui pshuto ke mashmao, on le considère comme s'il était mort pour Akadosh Baruch Hu. À tel point que ça a été retenu à l'Ibad Eilcheta. Un homme doit étudier jusqu'à ce qu'il soit prêt à mourir dans sa tente. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à mourir pour la Torah Akdosha. Il donne toute sa vie à Hashem Yitbarach. Il a peur de rien. Et s'il est capable de sacrifier ses volontés pour accomplir la volonté du Melech Malchem Lachim, on lui compte comme s'il était mort Al-Kiddush Hashem. Et Rabotai, C'est pour ça que on comprend la phrase de David Améler. Pour toi, je suis prêt à mourir toute la journée. Toute la journée, je suis prêt à sacrifier mes volontés pour toi, Kadosh Baruch Hu, pour faire régner ta volonté. Je suis prêt à me sacrifier toute la journée, du matin jusqu'au soir. Rabotai, cette Messirut Nefesh, elle permet une vie de lumière, elle permet une vie de Torah et d'Alia. Quelqu'un qui vit comme ça, il est zoché. Pour réussir à monter, à être des Bnei Aliyah, Rabotai, comme il disait Rabbi Shimon Bar Yochai, Bnei Aliyah Mouati, même les fils qui montent, les gens qui sont montants dans la génération, ils sont très faibles, ils sont très peu nombreux. Pour être zoché de ça, il faut faire Cheshbon Anefesh et le bilan, Rabotai, le bilan. Chaque jour, savoir où c'est qu'on en est, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on est mieux, est-ce qu'on est moins bien, est-ce qu'on est mieux qu'hier. Si Rabotai, être un tzaddik, ça s'appelle, d'après Rabbeinu Yonah, être meilleur aujourd'hui que ce qu'on était hier. Celui qui a réussi à faire ce Cheshbon Anefesh, mais le Yetzara, il t'empêche. Soit parce qu'il te fait rentrer dans l'esclavage égyptien de Wall Street qui te fait travailler 50 heures par jour, comme nos frères qui travaillent 50 heures par jour, ils ont créé des nouvelles journées à Wall Street de 50 heures. Donc le type, toute la journée, il est occupé, il n'a pas le temps de penser. Soit parce qu'on est rentré dans le système de la Torah et Chas Veshalom, on peut nous aussi trébucher dans Mitzvah Tanachim et Lumada, qu'on est devenu des fonctionnaires de la République. Le type, il étudie toute la journée son seder et ça, il rentre, il est épuisé, il n'a pas le temps de réfléchir, de penser est-ce qu'il est meilleur, est-ce qu'il n'est pas meilleur. Et le Yetzerara, ce Mzrob, il te neutralise, il t'empêche de faire ce Cheshbon HaNefesh. Pourquoi? Parce que le Cheshbon HaNefesh, le bilan de conscience, à quoi il te conduit? À être meilleur, à lutter, à te battre, à avancer, à faire en sorte de faire la Avodat Hashem d'une façon qui est meilleure. Mais puisqu'il n'a pas envie que tu travailles, il t'empêche même de réfléchir pour que, ne pas que tu puisses travailler. Et justement, cette génération, le grand tikkun de cette génération, c'est justement cette Messirut Nefesh. Pourquoi? Parce qu'on est dans la génération du confort. T'appuies sur un bouton, t'as toutes sortes de ch'touillottes, de films, de DVD, de bêtises, d'internet. Tu parles avec Jacqueline sur MSN, BBM Messenger, MSN Messenger toute la journée. Les messages écrits, Facebook, Facebook, le type, il reçoit toutes sortes de ch'touillottes. Et toutes, il n'a pas besoin de peiner, il a toutes sortes de ch'touillottes gratuitement. Mais ça ne rapporte rien, Rabotai. C'est des choses qui sont éphémères, qui meurent dans ce monde. Cette génération, c'est la génération du confort. Réussir à lutter et à briser cette nature, c'est ce qui fait sortir la lumière des Gdolé Israël. Tous les Gdolé Israël, ils sont arrivés à devenir des lumières dans la génération. Pourquoi? Parce qu'ils se sont battus de toutes leurs forces. Ils ont réussi à canaliser leurs passions et leurs pulsions. Ils ont réussi à lutter contre la paresse qui est la mère de toutes les vices. Comme il dit Shlomo Ameler, quelqu'un qui a la paresse, il est neutralisé dans sa Avodat Hashem. Et parfois, le Yetzer Hara te fait passer pour quelque chose d'insurmontable. Il te dit, mais c'est une montagne. La Gemara dit, à la fin des temps, les Rechaïm, ils vont pleurer parce qu'ils pensaient qu'ils avaient affaire à une montagne. Ils vont voir que le Yitzharaïm était comme le Khout Asarad, comme un fil d'un cheveu. Si tu te bats pendant 10 fois pour faire le Kinyan de quelque chose, Rabibi, tu as réussi à surmonter l'épreuve. C'est fini, c'est plus une épreuve. Lève-toi 10 jours d'affilée comme un lion. 10 mots derniers avec Itlavout. Remercie à Kadosh Baruch qui t'a rendu ton âme. Remercie à Kadosh Baruch qui t'a donné le Srout, Rabotai. Moi, j'ai fait une maîtrise de droit international à la faculté là-bas. J'étais comme un... comme un lion en cage. Je supplie à Kadosh Baruch Hu de me donner le sroud de venir étudier à la yeshiva. Quand j'ai eu le sroud de venir à Botaï, combien j'ai remercié à Kadosh Baruch Hu, combien je me battais parce que je savais que c'était un sroud magnifique qui n'est pas donné à tout le monde. Pendant 2 années, j'ai dû terminer mes études parce que un des poskim de la génération, il m'a dit qu'il fallait que je termine pour montrer que la Torah, on ne la choisit pas en désespoir de cause. On peut réussir brillamment dans ses études. Et c'est la Torah, c'est la chose qui a la pyramide de toutes les normes. C'est pas les mesquinim qui viennent à la yeshiva parce qu'ils ont raté leur vie. Quelqu'un, il peut avoir tout réussi, il peut être à l'ONU avec tous ces tordus. Ah bah, j'ai vu que j'ai fait une maîtrise de tordu international. Quand j'ai vu que j'étais un tordu international, je me suis rangé dans le vrai droit international qui est la Torah Kedosha. Rabotai, quelque chose, ça t'apparaît comme insurmontable. Fais-le 10 fois, tu réussiras. Et pour terminer, une histoire du Rav Shach, je termine sur cette histoire. On raconte qu'il y avait un enfant pendant la Shoah. Quand la guerre elle a éclaté, le Rav il leur a dit à tous, mes enfants, il faut que vous rentriez tous chez vous parce que je ne peux plus assurer votre sécurité. À ce moment-là, ils ont entendu ça. Tout le monde est parti chez eux. Vous allez aller auprès de vos familles et une fois que la guerre elle finit, vous allez revenir à la yeshiva. Tous les enfants ils sont rentrés. Il y avait un petit enfant qui arrive chez lui. Sa mère lui dit, je ne comprends pas comment ça se fait que tu es venu maintenant. On est en plein milieu du Zman. Comment ça se fait que tu es là? Il lui dit, ben c'est le Rav, il a dit qu'il ne pouvait plus assurer notre sécurité et tout ça. Il a dit, c'est marqué une Gemara, c'était sa mère. Et Torah vehemitzva de magenu alan. Une Gemara dans ma série de brachot d'Avlamed. Je ne sais pas si elle connaissait la référence, mais elle lui a dit, la Torah et les mitzvot, c'est un bouclier contre le Geinam, contre les explosions, contre les guerres, contre tout. Je ne vais pas t'envoyer maintenant parce qu'il est trop tard, mais demain matin, à la première heure, tu reprendras tes affaires et tu rentreras à la yeshiva et tu vas dire au Rav que si lui, il ne peut pas assurer en temps de guerre votre sécurité, alors alachat kama vekama que non, on ne peut pas le faire. Rabotai, l'enfant, il est reparti le lendemain. Après plusieurs semaines, je crois une semaine ou 10 jours de voyage, il arrive devant son rébé. Et le Rav le voit, il lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, écoutez, Kvodarav, je suis désolé, mais ma mère, elle m'a envoyé, elle m'a dit que c'était vous qui devez assurer ma responsabilité, ma survie et tout ça, parce que la Torah, c'est ça qui nous protège en temps de guerre et tout. Il a dit, le début de l'histoire, je vous le raconte, c'est que Rav Malkiel Kotler, c'était le neveu de Rav Aaron Kotler, le fondateur de la Torah aux États-Unis. Il avait en plein milieu de sa sifria, le Rav Steinman, quand il est là-bas, il a trouvé des chaussures complètement usagées, complètement déchirées. Il a dit, c'est pas ma team, avec le décor. Tu vois tous des livres, et tu vois en plein milieu là-bas des chaussures complètement usagées. Comment c'est possible une chose pareille? Il a dit, je vais te raconter l'histoire de cet enfant. Et cet enfant, donc, c'est cette histoire qu'il raconte. Quand il arrive, cet enfant, devant le Rebbe, il lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé avec tes chaussures? Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, Rebbe, j'avais pas d'argent pour payer le Hassa du retour, j'avais pas d'argent pour payer le transport, je suis venu à pied de là-bas. Rabouda, il a marché pendant plusieurs jours dans le froid, dans la difficulté, dans la Messirut Nefesh. Ce rave, il lui a pris des chaussures nouvelles, il lui a donné, il a dit, je vais garder les chaussures de cet enfant. Quelqu'un qui a été capable de faire Messirut Nefesh, de marcher dans le froid, pour venir rechercher les paroles de Torah, pour accomplir le mitzvah de Kivudabem, d'accomplir la volonté de ses parents, ça deviendrait un gadol. Rabouda, ce gadol, c'est devenu le Rav Char, le maître de la génération. Qu'on ait le sroud Bezrat Hashem, nous aussi, de marcher dans ce chemin. Et que la Kadosh Baruch Hu, il fasse qu'on se batte comme des lions et qu'on amène la lumière et la Yeshua dans tout le Ham Israël, Bezrat Hashem.